pour une agriculture véritablement durable avec Jean-Michel Florin.
Voilà, je préfère être avec vous que là-haut perché, parce que ça fait un peu très doctoral, je trouve. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais essayer de vous décrire en... faire une esquisse de ce que j'ai pris ce titre d'agriculture vraiment durable, parce que c'est devenu la tarte à la crème, l'histoire de tout. Tout est durable maintenant. Même un truc 100% pétrole, c'est durable. Bon, alors, il faut se poser un peu des questions. Et concernant l'agriculture, c'est aussi... beaucoup de choses sont durables, enfin, ce qu'on nous dit. Donc, je vais évidemment... enfin, pas évidemment, mais... comme je travaille et je présente surtout l'agriculture biodynamique, donc je travaille au mouvement d'agriculture biodynamique, comme ça a été dit, depuis assez longtemps, comme formateur, comme conférencier, et on a de nombreuses formations pour des jeunes, des formations longues, des formations courtes. Je travaille aussi au niveau international pour une coordination de l'agriculture, donc je vais essayer de vous présenter un peu la pratique biodynamique actuelle, telle qu'elle est en France et dans le monde. Et quels sont les aspects durables qui peuvent être utiles de manière générale pour l'agriculture, toute l'agriculture bio, parce qu'en fait, à l'origine de l'agriculture biodynamique, qui est un des courants qui a donné naissance à tout le mouvement bio, aujourd'hui on dit agroécologie, enfin il y a plein de variantes, il y a une notion vraiment importante, il me semble, pour l'aspect durable. C'est une notion qui a été décrite par le fondateur de l'agriculture biodynamique, Rudolf Steiner, en 1924, et qui a été reprise et développée beaucoup par un des élèves de Rudolf Steiner, qui s'appelle Ehrenfried Pfeiffer. Ceux qui ont suivi la conférence de Pierre Rabhi, semble-t-il, Pierre Rabhi a cité cet ouvrage. Hein. C'est, en tout cas, je sais qu'en général, il dit toujours que c'est cet ouvrage qui lui a fait découvrir l'agroécologie, fécondité de la terre. Cet ouvrage vient d'être réédité là, chez Actes Sud, hein, deux ouvrages, des ouvrages qui sont parus avant la Deuxième Guerre mondiale. Et une des notions clés qui est décrite par cet élève donc de Rudolf Steiner, Pfeiffer, qui était un Allemand, dans cet ouvrage, c'est l'idée d'organisme agricole. Et c'est ça que je voudrais vous décrire en détail, un peu plus en détail, parce que je pense qu'un des piliers d'une pratique agricole, ou même de jardinage durable, c'est cette idée d'organisme agricole. Et une première chose historique peut-être intéressante. En France, on parle d'agrobio, d'agriculture bio. En général, dans le reste du monde, on parle d'agriculture organique. Il y a une fédération mondiale d'agriculture bio. En fait, elle s'appelle IFOAM, Fédération mondiale d'agriculture organique. Je ne dis pas ça pour couper les cheveux en quatre. Je dis ça pour que vous compreniez qu'une bonne partie de la bio a oublié en route quelque chose. C'est-à-dire la bio avec les labels précis, la bio comme Nature et Progrès n'a certainement pas oublié, mais il y a une partie de la bio avec les grands règlements un peu simplifiés qui ont oublié cet aspect de l'organisme agricole. Et si on parle d'agriculture organique dans les différents pays, surtout de langue anglaise, c'est issu directement de cet ouvrage de Pfeiffer avec cette idée d'organisme agricole. C'est pas l'idée, vous pourrez trouver l'ouvrage au fond de la salle à la fin de la conférence. Vous pourrez vous le procurer si vous voulez, mais ce n'est pas de la publicité pour l'ouvrage. Ce que je veux faire, c'est montrer que déjà en 1930, des personnes avaient compris qu'en fait, il faut concevoir l'agriculture, il faut concevoir une ferme, un domaine agricole, j'ai vraiment pas envie de dire une exploitation agricole, vous comprendrez pourquoi, comme un tout organique, en fait comme un être vivant. Un être vivant à une échelle supérieure. Et donc le terme d'agriculture organique vient exactement de cette idée de concevoir une ferme comme un tout organique. Ça ne vient pas de l'utilisation de la matière organique. C'est une différence importante. Aujourd'hui, on peut faire de la bio, règlement européen, quelques déterres et en achetant de l'engrais organique à l'extérieur. En fait, l'idée d'organisme agricole, si je la décris maintenant en quelques mots, consiste... On va l'examiner maintenant à plusieurs niveaux. Un organisme vivant, ben, on peut se prendre comme référence. Nous, êtres humains, c'est celui qu'on connaît le mieux en général. Enfin, je pense qu'on se connaît, enfin, soi-même. Voilà, un organisme, on sait ce que c'est, puisque chacun d'entre nous est un organisme vivant. Et en fait, Rudolf Steiner, le fondateur de l'agriculture biodynamique, dit... Prenons l'être humain comme fondement de l'agriculture. Il dit même pas prenons les lois de la nature, il dit même prenons les lois de l'être humain. Regardons comment un être humain est construit. Et un être humain, ben, c'est construit comme un organisme global avec différentes parties. Il y a une tête, tout ce qui va autour de la tête, avec un système neurosensoriel. Il y a toute une partie intermédiaire, avec des rythmes, avec la circulation du sang, avec une respiration. Et puis, il y a une partie plutôt basse, hein, si je fais très simple, avec la digestion, avec la reproduction et avec les organes nous permettant de nous mouvoir, de nous déplacer et d'agir. Maintenant, on peut se dire, ouais, bah, sur une ferme, retrouver la même chose, c'est un peu fumeux comme histoire. Donc, on va essayer de voir comment on peut concevoir, en fait, hein, chaque domaine agricole de ce point de vue-là. Un premier niveau, un organisme, c'est la proposition qui est déclinée par Pfeiffer, hein, à des cycles de substances clos. Évidemment, l'organisme, la ferme, reçoit la lumière du soleil, la chaleur du soleil. Cet organisme reçoit les influences de la roche-mère, du sous-sol. Donc c'est bien, cet organisme de la ferme se place entre la terre et le ciel, le soleil. Mais pour produire, on ne va, dans l'idéal, rien acheter à l'extérieur. Là, ça commence à être durable déjà. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'acheter des machins chez le voisin, on n'a pas besoin d'acheter de l'engrais organique de l'autre bout du monde, on n'a pas besoin d'acheter de guano du Chili. On va essayer de créer un cycle de substances dans lequel de trouver l'équilibre sur le domaine agricole entre les cultures, les pâtures, et ces cultures et ces pâtures doivent servir à nourrir les animaux. Ces animaux... surtout les pâtures, évidemment, mais les cultures donnent de la paille qui peuvent servir à la litière, qui peuvent aussi nourrir les animaux. Les animaux vont, eux, produire du lait, de la viande, du cuir et d'autres choses, des œufs ou autres. Mais tous leurs excréments, qui sont devenus dans l'agriculture industrielle de la merde, hein, du lisier qui nous embête, on ne sait pas quoi en faire, on l'exporte, on le déshydrate, on le... Enfin bon, allez voir en Bretagne... qui était jadis l'or du fermier, tout le fumier des différents animaux va être en fait utilisé, composté, et l'idéal c'est qu'il y ait suffisamment d'animaux sur le domaine pour pouvoir avoir la fertilisation, la fumure organique de toute la ferme. C'est-à-dire, en principe, idéalement, on n'achète pas de fumier à l'extérieur. C'est pas facile, et beaucoup de fermes qui démarrent en bio ou en biodynamie ne sont absolument pas dans cette situation. Aujourd'hui, le défi est beaucoup plus difficile qu'à l'époque en 1930. Déjà, c'était pas simple, mais aujourd'hui, je reviens d'un congrès avec des viticulteurs. Les viticulteurs, ils disent c'était bien sympa, là, mais en champagne, nous, on va pas arracher un hectare de vigne de champagne pour mettre 2-3 millions l'hectare, la vigne, pour mettre une prairie et quelques chevaux. Ça les fait rigoler, notre histoire. Mais donc, vous voyez que le défi est très grand. N'empêche qu'on a ça comme idéal et qu'il faut essayer de conserver ça comme idéal. Donc on va voir comment on peut. Pour vous donner un exemple concret, hein, parce que c'est très concret, là, c'est des choses dont on a parlé il y a deux jours. Et on s'est dit, certains viticulteurs se sont dit, mais si on se met ensemble, il y a quand même des zones, on n'est pas obligé d'avoir la monoculture à perte de vue, il y a des zones où il y a autre chose. Et si on se met à plusieurs, première innovation, on peut proposer à un berger itinérant de circuler sur les différentes parcelles de vigne. Et le berger, il va... Alors, 3-4 viticulteurs se mettent ensemble et le berger va circuler avec ses moutons en hiver sur les parcelles de vigne et ce sera lui qui aura les animaux du domaine. Vous voyez, il faut innover. C'est pas la petite ferme de papy en cycle clos, mais on a quand même cette idée de cycle clos à 2-3 domaines viticoles. On fait, sur un village, quoi, une zone, et ben on a le troupeau d'animaux en se répartissant le travail. Et ça, ça donne des choses très, très, très stimulantes et très intéressantes parce qu'il faut être créatif, il faut être innovant, parce qu'on est face à des situations de monoculture, des situations difficiles. Donc cette idée, vous voyez peut-être, je vous l'aurais montré en image, mes images sont parties, la technique est partie, représenter vraiment le sol qui va permettre, le sol et le ciel qui vont permettre aux plantes de pousser. Ces plantes vont nourrir nos animaux vont fertiliser la terre et là, vous avez un cycle clos. Évidemment, tout ça pour une production d'alimentation qui va être vendue à l'extérieur. Ce n'est pas un cycle autarcique d'autosubsistance, c'est un cycle clos de production. Il ne faut pas confondre. Hein. L'idée de la biodynamie, ce n'est pas dire le paysan il fait juste à manger pour lui. Ce n'est pas de l'autarcie. Hein. C'est un cycle clos de production. Et si vous réfléchissez ça à un deuxième niveau, c'est intéressant parce qu'en agriculture biodynamique, et c'est la base de la bonne bio, hein. Tout ça c'est la base de la bonne agriculture bio, je dirais. Hein. C'est ce qu'on appelle le lien au sol. l'idée de ce cycle clos de substances est vraiment quelque chose d'essentiel hein, pour la pratique de l'agriculture bio en général, ce qu'on appelle le lien au sol. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agricultures bio exigeantes demandent ou interdisent d'avoir des animaux si on ne les nourrit pas soi-même. Ça, c'est vraiment durable. Hein, ça, je crois que vous avez peut-être compris la différence maintenant, qui est une différence fondamentale. Hein, parce qu'on voit arriver du bio toutes sortes, et beaucoup de bio, on peut faire du poulet bio aujourd'hui sans avoir beaucoup de terre, on achète les grains bio à l'extérieur. On n'a pas de lien au sol, on ne produit pas soi-même la nourriture de ces poulets. Alors on va dire, pourquoi en fait c'est important ? Au premier niveau, c'est important pour avoir un... Il y a un premier point vraiment essentiel, c'est que les agriculteurs qui produisent eux-mêmes l'aliment de leurs animaux ou qui soignent eux-mêmes les pâtures, ils savent exactement ce qu'ils donnent à leurs animaux. Contrairement à la situation, si vous vous trouvez en situation d'acheter à l'extérieur des aliments pour vos animaux, en fait, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. La vache folle, c'était ça. Les braves gars ont dit, ben, on ne savait pas, en fait. On nous avait dit que c'était bon pour nos vaches, hein, elles sont devenues folles, mais nous, on ne savait pas qu'il y avait de la viande dedans. Donc, comment être responsable ? Comment se responsabiliser sur son domaine agricole ? Eh ben, en étant en possession, en connaissant tout ce qu'on produit. Ça, c'est vraiment un élément de responsabilité très important, je trouve, pour l'agriculture de l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est le problème général. Dès qu'il y a un problème en agriculture, personne n'est responsable. Je veux dire, s'il y a de la viande de cheval, je ne sais pas où, c'est pas lui, c'est moi, et c'est l'autre, c'est le revendeur, c'est le transformateur, c'est le grossiste. Ça, c'est jamais moi. Hein. Personne n'est responsable. Donc là, c'est l'idée de se responsabiliser complètement. Un autre deuxième niveau de cette idée d'organisme agricole, c'est qu'en fait, il y a aussi des interactions beaucoup plus subtiles sur un domaine agricole entre les différents règnes de la nature. On est un peu arriéré en biodynamie, on parle de règne de la nature, aujourd'hui c'est plus ce qu'on dit, mais j'appelle règne de la nature tout simplement le minéral, le végétal, l'animal. Et on sait aujourd'hui qu'il y a une multitude d'interactions assez subtiles. Par exemple, pour vous donner un exemple de la nature sauvage, de l'écologie, il y a eu des études en Afrique sur des populations de girafes et des acacias. La nourriture, une des nourritures préférées des girafes, c'est l'acacia. Les chercheurs ont clôturé des acacias en se disant si les acacias ne sont pas broutés par les girafes, ils pousseront mieux. Ça paraît logique, non ? Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas de prédateurs qui viennent manger l'acacia, ça pousse mieux. Pas de chance, ils poussaient moins bien. Cherchez l'erreur. C'est qu'il y a plein d'autres bêtes dans le cycle. C'est beaucoup plus compliqué que ça. La nature, c'est pas juste une plante et un animal qui te bouffe. Ça, c'est notre petite tête simpliste. Entre l'acacia et la girafe, l'acacia porte sur lui des fourmis, certains types de fourmis, et ces fourmis un certain type de fourmis qui va limiter, qui va permettre aux girafes de brouter un peu d'acacia, mais quand elles broutent trop, les fourmis deviennent agressives et vont piquer des girafes. Donc un cycle assez compliqué. S'il n'y a plus de girafes qui broutent l'acacia, c'est d'autres fourmis qui viennent et c'est des animaux prédateurs, des insectes prédateurs de l'acacia qui vont arriver. Donc là où on croyait que ça marcherait mieux, ça marche moins bien. Juste pour vous donner un exemple, il y a une multitude d'interactions très subtiles entre les plantes et les animaux dans la nature. On n'en connaît pas le millième. Et alors l'idée dans l'organisme agricole, c'est d'avoir des cycles comme ça, de favoriser ça, même si on ne les connaît pas. Et pour ça, il faut avoir une multitude d'animaux sur la ferme, la plus grande diversité possible. Il faut avoir la plus grande diversité possible aussi de cultures. Et il faut laisser de la place à la nature. On essaye, par exemple, là, je vous donne l'exemple de la biodynamie, mais je trouve que toute l'agriculture bio devrait faire pareil. C'est vraiment des idées à partager avec, pour toute la bio. Hein. Je ne prétends pas que la biodynamie est mieux, c'est plutôt... quelles sont les choses qu'on peut vraiment partager. 10% de la surface, on essaye de réserver 10% de la surface au minimum à des zones sauvages, à des zones de biodiversité. Parce que là, il y a des réservoirs, une grande richesse. Un exemple, à nouveau, viticulteurs. Désolé, j'étais avec des viticulteurs deux jours, là, donc du coup, c'est des exemples qui me viennent. Un viticulteur qui a installé une quantité de nichoirs et d'arbres entre ses vignes. Il y a 5 ans, il avait des attaques de chenilles, une chenille particulière, Eudémis, Cochilis, peu importe. Maintenant, il avait besoin de traiter, il se demandait qu'est-ce que je vais mettre comme tisane de plante, comme extrait de trucs bio, nature, pour lutter contre ces chenilles. 5 ans après, il a une centaine de nichoirs, il faut entretenir les nichoirs, il se fait plaisir, il a des huppes, il a des oiseaux rares qui sont revenus sur son domaine, il a un copain qui est passionné d'oiseaux qui s'occupe des nichoirs, parce que c'est du boulot. Donc il a trouvé un partenariat, mais il n'a plus de chenilles. Finalement, c'est quand même pas si cher. Et il a un grand plaisir à voir une huppe, à voir un torcol, à voir des oiseaux très rares dans la région Alsace où j'habite, qui sont revenus, quoi. Donc ça c'est vraiment, et ça c'est quelque chose de déjà un peu plus subtil, vous voyez, qui fonctionne vraiment. Économiquement, vous pouvez calculer l'intérêt véritable, hein. Ça évite quelques traitements et des soucis, quoi. Pas de lutte contre ces chenilles. Et donc, une idée générale, peut-être, c'est de dire, en fait, sur chaque domaine agricole, il faut avoir un équilibre entre, vous avez compris, la diversité végétale, les cultures, les prairies, les zones sauvages. Je dis les cultures, les prairies, les vergers, les zones humides, d'avoir la plus grande diversité de paysages possible. Et là, on touche l'autre livre de Pfeiffer, qui s'appelle « Le visage de la Terre », où Ehrenfried Pfeiffer nous dit, finalement, la Terre, c'est un organisme vivant, et chaque paysage est un visage, un aspect de son visage. C'est-à-dire, si je regarde un paysage, je peux évaluer l'état de santé, l'état de vitalité, et le moment de l'année en regardant le paysage. Donc vraiment prendre le paysage comme visage de la Terre. Et pour que le visage soit intéressant, bah, il faut qu'il soit varié. Je veux dire, si vous aviez un visage seulement avec des yeux, ça serait peut-être un peu bizarre, hein, ou que des bouches. Non, mais voyez, qu'est-ce qui fait la beauté d'un visage ? C'est la diversité de tout ce qu'il y a. Hein, et c'est l'harmonie. De chaque visage est différent. Je veux dire, chacun d'entre nous a un visage différent. Et comment est-ce qu'on pourrait arriver, avec ce travail intime, hein, avec le paysage, donc, à avoir chaque paysage de la Terre différent, chaque paysage de chaque ferme différent, comme tous nos visages ? Ça serait un super idéal. C'est l'anti-McDo. Hein. Je sais bien, McDo vous propose partout le même produit. L'idée de la biodynamie, c'est de proposer à chaque endroit quelque chose de différent, parce que c'est le reflet du terroir, du lieu précis. Et chaque lieu est différent. Donc chaque lieu, si on lui permet de s'exprimer, il aura un visage différent. Comme nous, je veux dire. C'est quand même incroyable. On est combien ? 7 milliards d'humains et on a tous des visages différents. Je ne sais pas comment c'est possible. Hein ? Vous voyez ce que ça veut ? Ça veut dire, en fait, une richesse de paysages énormes. Et pour ça, il y a plusieurs clés. Une des clés, c'est de trouver l'équilibre adapté entre les surfaces de forêt et les surfaces ouvertes. C'est un gros défi aujourd'hui. On a des problèmes de sécheresse dans beaucoup de contrées du monde, hein, dans beaucoup de continents, ou de trop d'eau, de déséquilibre, trop d'eau ou trop de sécheresse. Une des clés pour ça peut être vraiment de trouver l'équilibre entre zones couvertes, forêts, bois, bosquets, et zones ouvertes. On sait que si vous avez des forêts, en général, les forêts attirent la pluie. Si vous avez des zones ouvertes, des zones ouvertes à perte de vue, désertiques, il n'y a pas de pluie. Ça a un effet direct sur les nuages. Donc ça, c'est une des clés, l'équilibre entre l'espace ouvert et l'espace fermé. Une autre clé plus fine encore sur le paysage, c'est de penser le paysage comme un tout et de se dire, en fait, comment cet organisme, donc ce paysage, maintenant je suis passé de l'idée d'organisme à paysage, mais c'est la même chose, le paysage de ma ferme, comment ça va faire un tout ? Si j'ai un champ, une plantation d'épicéa, un champ de maïs, une plantation d'épicéa à côté et puis après une pâture, c'est sympa, mais c'est pas vraiment le paysage qui a beaucoup de succès pour les touristes, hein. Vous savez où vous avez envie d'aller en vacances ? C'est assez marrant, les gens vont toujours en vacances dans des vieux paysages. En plaine d'Alsace, c'est comme ça. Hein. Chez moi, maïs à perte de vue. Il n'y a pas de touristes, c'est bizarre. Hein. Enfin, je sais pas. Pareil que c'est super, hein. Le président de la chambre d'agriculture, il trouve ça super. Lui, quand il va avec son copain du Texas, il regarde la plaine d'Alsace couverte de maïs, il trouve ça extra comme paysage. Mais il ne va pas se promener, il regarde ça de loin. Hein. Il fait une photo, puis c'est ce qu'il dit en com. Hein. Sauf que j'ai jamais vu l'ombre d'un touriste là-bas. Hein. Sauf s'ils sont paumés, quoi, hein, parce que le GPS montrait pas le bon chemin, parce que c'est des noms alsaciens. Mais ça, c'est autre chose. Mais voyez ce que je veux dire ? Étonnamment, c'est les vieux paysages qui plaisent. C'est les vieux paysages qui nous réjouissent. C'est les vieux paysages qui nous font plaisir. Et qu'est-ce qu'ils ont, ces vieux paysages ? On peut en faire des neufs aussi. Ben, ils ont une diversité de zones et ils ont surtout des tas de zones frontières. Ils laissent des haies. Ils laissent des lisières de bois. Ils ont des chemins creux. C'est-à-dire que vous n'avez pas deux zones fonctionnelles, un champ de maïs qui côtoie directement une plantation d'épicéa. Vous avez l'image peut-être, hein, j'aurais pu vous la montrer. Ben non, entre les deux, on laisse une lisière. Tout de suite, ça devient intéressant. Parce que dans la lisière, les lisières sont des hauts lieux de diversité. Chaque fois que vous avez une lisière entre deux zones naturelles, vous avez un écotone, un haut lieu de diversité. Donc l'idée, c'est comment créer une trame, un tissu, pour que votre domaine, votre organisme agricole, tous ces éléments soient reliés par des haies, par des lisières, par des bords de chemin, etc. Où là, on va laisser une grande diversité. végétale qui permettra à beaucoup d'animaux de venir. Une clé suivante, hein, donc, c'est aussi en ce qui, c'est une clé qui est vraiment de base pour l'agriculture biodynamique, c'est de se dire finalement, le monde végétal, le végétal, si je regarde une plante, elle a des caractéristiques particulières, c'est d'être toujours en production. Elle produit de la matière vivante par la photosynthèse. Elle fournit des fleurs, des fruits, des parfums. Et si je regarde le monde animal, lui, il est toujours en fait en train de prélever, prédateur, de se nourrir, quoi. Mais de prendre. Donc il y a deux gestes complémentaires. Le végétal donne et l'animal prend. Et si je regarde ça objectivement, sans me dire les sales bêtes, ils bouffent tout, ou hein, bon, ce qu'on pourrait avoir tendance à dire, eh bien en fait, je peux comprendre qu'on a besoin des deux, toujours. Et si vous avez des grandes cultures, des grandes zones d'herbes ou de plantes, et qu'il n'y a pas d'animaux, parce que vous les avez virés, vous les avez éradiqués, vous les avez flingués, vous les avez tués, enfin toutes les formes sont possibles aujourd'hui, hein, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez d'autres animaux qui vont venir, et ceux-là, c'est des parasites terribles. C'est ce qui se passe systématiquement. Dans les champs de blé où il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien, des pucerons, quoi. Hein, et des gros, des sacrés parasites. Dans les zones de vignobles où il n'y a plus d'arbres, plus d'espace pour la faune sauvage, eh ben vous allez voir des étourneaux qui vont tout bouffer ou les sangliers qui vont tout bouffer. C'est-à-dire que de toute façon, dans la nature, vous ne pouvez pas avoir de plantes sans animaux et d'animaux sans plantes. Et si vous ne trouvez pas cet équilibre, eh ben ils viendront et ils vous causeront de gros problèmes. Et ça, c'est une règle qu'on peut... Ça, c'est étonnant, mais il y a des gens qui pratiquent, qui essayent d'équilibrer leur domaine et qui voient ça progressivement venir. Encore un viticulteur... C'est-à-dire, je suis obsédé, mais bon, c'est les exemples que j'ai, et qui me dit, mais moi, si j'ai du raisin en trop, je le mets en bout de champ, et c'est les sangliers qui viennent le manger, puis après, il me retourne un peu ma parcelle, mais il n'avait pas l'air plus inquiet que ça, ça m'a épaté, mais parce qu'il y en a d'autres qui râlent. Hein. Mais il me dit, non, moi, mes sangliers, je leur donne une petite partie du raisin en plus, et puis comme ça, voilà, je pense à eux, ils font partie du domaine. Bon, ça dans un coin, hein, un peu à l'orée du bois. Mais vous voyez, le geste, c'est pas... virer, maîtriser, éradiquer tout ce qui nous dérange, c'est accueillir y compris la faune sauvage. Et il y a un exemple peut-être encore plus extrême qui est là donné par Pfeiffer en s'appuyant sur les travaux de Steiner et qui dit finalement, si on veut éviter les maladies, les champignons, les parasites qu'on a dans les jardins, qu'on a sur les arbres, qu'on a dans la vigne, etc. De plus en plus, on a de plus en plus de maladies. Hein. Chaque année, il y a des nouveaux arbres qui crèvent. Je vous fais pas la liste. Hein. Dans le sud, c'est les platanes du canal du Midi, c'est les palmiers, c'est quoi ? Ici, c'est les... Enfin, chez moi, en Alsace, c'est les frênes, enfin bon, etc. Et chaque fois, c'est très souvent des maladies cryptogamiques, des champignons. Et si on veut éviter ça, en fait, la proposition... Alors, on pourrait dire qu'il faut les flinguer, il faut les éradiquer. Quoi. Ça, c'est la technique, et on met beaucoup de chercheurs sur le coup. Et 40 ans après, on n'a pas trouvé. Hein. Non, mais sérieux, en vigne, il y a une maladie qui s'appelle la flavescence dorée. Elle a démarré en 1955. On éradique, on flingue la cicadelle, c'est-à-dire l'insecte qui la transporte. Mais ce que fait la maladie, si je regarde la carte, au début, en 1955, il y avait une petite tache autour d'Armagnac. Aujourd'hui, ça a remonté tout le sud de la France, ça a remonté la vallée du Rhône, et on est ici dedans, et c'est maintenant en Bourgogne. Donc, super efficace, la méthode d'éradication. Et ça, plus on éradique, plus ça s'accélère. Donc, cherchez l'erreur. Donc là, la proposition, c'est tout inverse, c'est de dire, mais... Au fond, dans un espace, dans un domaine agricole, laissons des espaces humides, des zones humides, des mares, des zones comme ça, où ce monde particulier des champignons va pouvoir se développer, donnons-lui une place, et il sera moins présent sur les cultures. C'est un peu étrange comme raisonnement, peut-être, mais c'est un raisonnement qui dit on accueille toute la diversité, si on l'intègre dans notre organisme, elle aura sa place, et elle n'ira pas à un autre endroit. Alors, je vous dis pas que c'est la recette miracle. Mais en tout cas, je connais des domaines en biodynamie qui sont en pleine zone de flavescence dorée depuis 30 ans et ils n'en ont pas. Ça, c'est la réalité. Et ils ne savent pas dire pourquoi ils n'en ont pas. Mais ils appliquent ce que je dis. Et à côté, il y en a plein. Ils arrachent X pieds, des quantités de pieds chaque année. C'est-à-dire que ça coûte vraiment très cher. Donc, ce n'est pas que des choses gentilles, écologico-gentilles. C'est des choses très pratico-pratiques qui fonctionnent. Je regarde l'heure. C'est bon ? Voilà. Donc ensuite, il y a encore, et là je vais aller plus spécifiquement sur des choses qui concernent l'agriculture biodynamique, parce que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, en fait je considère que c'est quelque chose qui sont les bases de toute l'agriculture bio, et que d'ailleurs Pfeiffer a mis dans son livre Fécondité de la Terre, parce qu'il souhaitait vraiment que ce soit un livre de base pour toute l'agriculture bio, vraiment. Ensuite, en biodynamie, on a d'autres pratiques qui paraissent peut-être, ou qui paraissaient à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, comme on va dire... pas si facile à comprendre, un peu ésotérique, un peu bizarre, c'est ces fameuses préparations biodynamiques. Donc je vais vous en dire deux mots pour vous montrer comment on continue en fait dans cette même idée. On utilise, par exemple, je vais prendre cet exemple-là, deux préparations biodynamiques. Si je vous donne la recette, vous connaissez certainement, ou peut-être pas. Ça peut paraître bizarre. Une s'appelle la bouse de corne, c'est la bouse de vache qui est mise dans une corne de vache qu'on enterre de l'automne au printemps. Si je raconte ça en Inde, j'étais en Inde il y a quelques temps, les Indiens trouvent ça super normal, hein, parce qu'eux, ils font du savon. On m'a offert une savonnette, vous savez à quoi ? Super savonnette, avec de la bouse de vache, de l'urine de vache, du lait de vache, du beurre clarifié de vache. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Je sais plus. 5 produits sacrés de la vache. Hein ? Bon, je pense pas que le savon à l'urine de vache, ça fera fureur en France, mais en Inde, ça fait fureur. Dans tous les magasins, hein, dans les grands magasins, je veux dire, c'est pas un truc réservé à Prime Vert. Hein. C'est pas une blague. J'ai oublié de vous l'amener, mais... Vous voyez ? Comme quoi notre culture nous a imbibé beaucoup de certaines choses, mais en Inde, on leur raconte ça, ils disent « Oh, bah super, nous, on a l'habitude, on y va, on le fait, et hop. » J'ai vu des gens là, à la balayette et à la petite pelle qui ramassaient toutes les bouses pour faire justement leur préparation biodynamique. Des petits paysans hein, qui ont 1,5 hectare et ils sont convaincus parce qu'ils voient tout simplement l'effet sur la fertilité de leur sol et que leur rendement augmente et que grâce à l'augmentation des rendements, ils peuvent vendre un petit peu quelque chose et avoir un peu de cash, un peu d'argent liquide pour payer les études aux enfants. Donc après, vous pouvez leur faire tous les discours que c'est bizarre leur truc. S'ils voient les résultats, et ça leur coûte rien parce qu'ils ont tous une vache ou deux. En Inde, forcément. Hein. Même en ville, vous avez une vache. Sans vache, vous n'existez pas. Donc, vous ne valez rien. Enfin, il faut avoir sa vache. Donc, voilà. Donc, on a deux préparations biodynamiques que l'on utilise sur les plantes. Une qui s'appelle la bouse de corne. Donc, la bouse de vache qu'on met dans des cornes de vache et qu'on enterre en automne et qu'on ressort au printemps. Et c'est transformé en un bel humus. Non, si c'est réussi, si c'est raté, si ça sent la bouse au printemps, c'est raté, c'est pas utilisable. Ça doit être complètement transformé dans un bel humus noir, un peu comme un bel humus forestier qui sent pas du tout. C'est souple. Et l'autre préparation biodynamique, c'est de la poudre de quartz. Le quartz, c'est finalement le composant des vitres. Hein. Les vitres, le verre, c'est 60 à 70% de quartz. Parce que c'est le cristal qui est le meilleur médiateur de la lumière, le quartz. Hein. Si vous voulez trouver une substance qui laisse passer la lumière sans la modifier, vous prenez du quartz. C'est pour ça qu'on fait des vitres en quartz. Enfin, en sable de quartz. Et donc, la deuxième préparation s'appelle la silice de corne. C'est du quartz qu'on broie très finement en poudre, en talc, et qu'on met dans une corne de vache. Et là, on fait l'inverse, on le met au printemps. On met ce quartz au printemps dans les cornes et on met les cornes au printemps dans la terre. On les laisse passer tout l'été en terre, on les ressort en automne. Alors, il faudrait certainement plus de temps pour vous expliquer pourquoi des cornes, etc. Mais je vous disais, en Inde, ils vous expliqueraient ça rapidement. Parce qu'en fait, si on regarde dans le monde animal, pas seulement les animaux comme des machines, mais on essaye de comprendre la spécificité de chaque animal, sa nature, son caractère, qui il est. Ben on verra que les vaches, c'est les spécialistes de la digestion et de la transformation de la matière terrestre, de l'herbe, quoi. Une vache, nous, on a un estomac. Un oiseau, il n'a même pas un estomac. Un oiseau, ça rentre, ça ressort direct. Hein. Il y a un système digestif très simplifié, les oiseaux, alors qu'une vache a un système digestif hyper complexe. 4 estomacs, quoi. C'est pas mal, hein. Et puis, elle mange et elle rumine, elle remange, quoi. Donc, vous voyez, elle met vraiment beaucoup, beaucoup de soins à manger et à digérer. Beaucoup plus que nous. Et ça veut dire que sa bouse porte quelque chose de tout à fait différent que les excréments d'autres animaux, en fait. Hein. Elle est vraiment complètement imprégnée de cette application que met cet animal hyper spécialisé, en fait, à transformer la matière la plus indigeste. Hein. La cellulose, c'est pas digeste. Essayez de vous faire un plat de... Manger du foin seulement, manger de l'herbe, le gazon tous les jours, vous allez voir, c'est pas top. Hein. C'est vraiment indigeste. La vache, elle fait ça parce qu'elle a des micro-organismes et grâce à ça, elle peut se nourrir d'herbe. Donc vous avez compris qu'il ne faut pas donner autre chose à la vache que d'herbe. Dès que vous lui donnez autre chose, c'est une catastrophe. Évidemment, donner des céréales à la vache, céréales c'est pour les hommes, on est d'accord. Donner des céréales à la vache, c'est une catastrophe pour sa santé et pour nous. Parce que les céréales, c'est fait pour les humains, c'est pas fait pour les animaux. Donc effectivement, beaucoup de gens disent maintenant les vaches, c'est une catastrophe, etc. On cultive tellement d'aliments pour les animaux, c'est vrai. C'est vrai, dans le cadre d'un organisme agricole biodynamique, on produit de l'herbe pour les vaches. On ne produit pas du soja, on ne produit pas du maïs, on ne produit pas du blé. À la limite, on donne une petite portion de céréales en début de lactation pour la soutenir, mais c'est mini. Et moi, je connais pas mal de laitiers, c'est de l'herbe, du foin, un peu d'ensilage en hiver s'ils ont raté leur foin, ou de élage, mais là-bas, c'est herbe, herbe, herbe. Et peut-être un peu de betterave, un peu de carotte pour les jeunes, mais c'est des condiments, c'est pas de la base de la nourriture. Hein, donc ça, vous avez... Voilà, mais là, on pourrait développer l'histoire de la vache. Mais je reviens à, à mes deux préparations biodynamiques. L'idée, c'est de dire maintenant comment on peut faire pour avoir, en fait, favorisé la qualité de terroir des plantes, donc de la nourriture des animaux, pour qu'elle soit encore plus le reflet du lieu. Et ces deux préparations biodynamiques ont pour but non pas de pousser les rendements, non pas de lutter contre les maladies, non pas de je sais pas quoi, elles ont pour but simplement de renforcer les plantes cultivées. On demande beaucoup une plante cultivée, beaucoup plus qu'à son équivalent sauvage, hein. On demande des rendements complètement déments. Si je prends l'ancêtre du blé sauvage, là, l'aiguillops, ça produit, à mon avis, si ça fait 3 quintaux à l'hectare, ça doit être le maximum. Nous, il y en a un qui demande 100 quintaux maintenant. Bon, pas en bio, hein, ça c'est de la folie, mais qu'on peut demander 50. Donc vous voyez, c'est énorme ce qu'on demande à nos plantes par rapport à une plante sauvage. Donc il faut, ça c'est la proposition de Steiner pour la biodynamie, il faut leur redonner des forces, des substances, mais aussi des forces, pour qu'elles aient la capacité de donner ce qu'on demande. Et pour ça, en fait, la bouse de corne, c'est cette préparation donc, de bouse de vache que je vous ai expliquée, va être mise, on en met une petite quantité, 50 grammes à l'hectare, à peu près 50 à 80, enfin une poignée, disons. Hein. Une poignée, on met ça dans l'eau, on le brasse pendant une heure pour que ce soit vraiment intimement mélangé à l'eau et on le pulvérise sur notre surface. Et ça va aider la plante à vraiment s'enraciner beaucoup plus profondément, beaucoup plus verticalement, à aller beaucoup plus loin. Ça va favoriser les mycorhizes, donc tous les champignons qui entourent les racines des plantes dans la plupart des familles de plantes. Et ça va favoriser le développement de la plante au début, le développement vert, hein, des pousses vertes au moment de la germination. Donc on va... Et de l'autre côté, vous allez... Alors, notre plante est bien enracinée, se développe bien, et ensuite elle va monter, elle va faire ses fleurs, ses épices, et on a des céréales. Et là, on va utiliser une autre préparation qu'on appelle la silice de corne, donc je vous disais, qui va vraiment, elle, faire un peu l'inverse, qui va favoriser la structuration de la tige, qui va favoriser une bonne floraison et surtout une bonne maturation du grain, une bonne élaboration des substances, si je reviens à mon raisin, une bonne maturation du raisin, la diversité des arômes dans le raisin, par exemple, et une bonne conservation des fruits et des différents produits, en fait. Donc, en fait, ce qu'on fait avec ces deux préparations, on aide la plante à être plus activement liée à la terre et plus activement liée au ciel, à la lumière essentiellement, hein, à être plus réceptive, plus activement liée. Concrètement, une année trop humide avec trop peu de lumière, eh ben on va rajouter de la silice de corne, on va en mettre plusieurs fois pour compenser le manque de lumière. Une année trop sèche, on va pulvériser plusieurs fois de la bouse de corne pour renforcer la capacité des racines à aller en profondeur chercher l'eau et les éléments dont elle a besoin. Et de cette manière-là, en fait... Et là, à nouveau, je prends l'exemple du vin. Et ben, le goût de terroir est renforcé largement. En aveugle, sur beaucoup de tests, les gens, ceux qui dégustent, disent les vins biodynamiques. Alors, dire que c'est meilleur ou moins bon, c'est quelque part une question de goût, peut-être. Hein. Mais en tout cas, il y a une différence. Il y a vraiment une différence particulière. Ils ont un truc, quoi. Il y a quelque chose, il y a une particularité. Donc, c'est ces préparations qu'on utilise à doses très minimes, type homéopathie, ont vraiment une action pour permettre à la plante d'être plus présente et plus liée au lieu où elle pousse. Donc plus terroir, en fait. C'est complètement l'idée du terroir. D'avoir des plantes qui soient vraiment reflets de leur terroir. Et vous imaginez que si les animaux mangent des plantes qui sont le reflet de leur terroir, bah, ils auront aussi, eux, une nourriture qui est le reflet du lieu où ils vivent et qui va avoir un caractère terroir renforcé, ce qui peut être évidemment très intéressant pour des fromages. Hein. Le blé, vous allez avoir un pain de terroir et chaque ferme aura son blé, son lait, son raisin, ses pommes qui auront un goût de terroir plus caractéristique en fait. Ça c'est l'aspect pour le producteur, pour la personne qui est intéressée par la consommation. L'autre aspect peut-être important de cette idée d'organisme agricole, alors ce que j'ai pas dit c'est qu'on utilise aussi évidemment pour la base de la fertilisation de la terre, hein, je l'ai oublié, mais évidemment, là j'ai dit comment on soutient la plante, mais évidemment la chose principale, hein, c'est d'avoir de l'humus et d'avoir une terre vivante. Et pour ça, on utilise 6 autres préparations, extraits de plantes fermentées que l'on met dans le compost. Et c'est le compost et ces extraits de plantes qui vont vraiment donner la base de la vitalité du sol. Sans sol vivant, il n'y a pas de terre vivante. Et ça, c'est vraiment, on pourrait dire, Rudolf Steiner prend un exemple directement de l'être humain. Il dit le sol, c'est le diaphragme. Le sol est entre la partie haute et la partie basse de l'être humain, et il compare directement la ferme à un être humain en disant la tête de l'être humain est sous terre et le ventre, là où il y a toutes les transformations, c'est au-dessus de la terre. On aurait pu penser l'inverse. Mais si vous regardez l'activité des racines, les réseaux de mycorhizes, de champignons, tout ce qui passe sous terre, en fait, il y a de plus en plus de chercheurs, de scientifiques, de botanistes qui découvrent qu'en fait, les plantes sont toutes connectées entre elles. Un chercheur a dit récemment, ce qui se passe sous terre dans une forêt, c'est le World Wide Web, 3xW, hein, comme Internet. Ça a été inventé il y a 400 millions par les plantes. C'est l'Internet des plantes. C'est-à-dire qu'elles sont toutes interconnectées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en bordure de forêt, il y a un arbre qui est attaqué par un parasite. Immédiatement, soit par des phéromones, par des substances, des odeurs transmises par l'air, ou plus souvent par des substances transmises par les racines, par les champignons, par les racines, les arbres qui sont à 20, 30, 40 mètres sont au courant de l'attaque et préparent des tanins, préparent des substances toxiques pour le parasite. Donc on a ici, en fait, sous terre, on pourrait dire l'équivalent de ce qui se passe dans les échanges que l'on fait entre nous, les échanges qu'on fait au niveau intellectuel, au niveau des idées. Ben, les plantes échangent des idées, échangent des informations sous terre, par les racines. Et à l'inverse, au-dessus de la terre, c'est là, en fait, qu'il y a tout le processus de digestion de la plante, de production, de transformation des substances. Donc, vous voyez, on compare vraiment l'organisme agricole à un être humain, et le sol, du coup, est la zone qui est au niveau de la respiration, enfin le diaphragme, hein, cette zone qui joue, qui pulse avec notre respiration, hein, le diaphragme est juste là sous les côtes, et le sol est la zone intermédiaire la plus fragile et la plus sensible, qui doit être très vivante, en fait, toujours en respiration, donc pour pouvoir garder cet équilibre entre, on va dire, le ciel et la terre. Ça prendrait du temps d'écrire ça de manière plus... Je ne veux pas vous convaincre, c'est juste vous donner une idée comment on peut comprendre ça et comment on peut appliquer cette idée d'organisme vraiment à l'agriculture. Peut-être que, voilà, on va aller doucement vers la fin. Je voulais vous lire une petite citation de Pfeiffer pour terminer, parce qu'il a vraiment des choses très... Il est très précurseur. J'ai relu le livre pour faire la préface. Ça a été écrit en 1938. Il y a quelque chose démodé, mais sur le fond, tout est tout à fait d'actualité. Bon, je dis, c'est un peu dommage qu'on ait perdu tant de temps, mais bon. Voilà, et oui, je vais prendre ça parce qu'en fait, c'est étonnant, mais Pfeiffer est tout à fait on dirait aujourd'hui un apôtre de la décroissance, c'est peut-être pas comme ça qu'il aurait dit, ou de la sobriété. Et il dit à la fin de son ouvrage sur le paysage, il dit, mais la véritable solution réside dans la recherche d'un équilibre entre la production et la consommation, même s'il doit en résulter au début certaines restrictions. La civilisation occidentale est au point tournant. Production, rationalisation, mécanisation ne doivent pas dépasser une certaine mesure. Il serait même nécessaire de la réduire, donc de réduire production, rationalisation, mécanisation, pour rétablir l'équilibre. Un accroissement en flèche de la production industrielle aboutit à une saturation qui fausse la situation économique. La connaissance des lois de la croissance organique doit inspirer de nouveaux points de vue. En biologie, on peut observer le phénomène de la division en 4 cellules. Dans la genèse de la cellule, 3 disparaissent, sont déshéritées au profit de la 4e, qui reçoit ainsi toute la substance nécessaire à sa croissance. On pourrait développer, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que croître toujours, ça n'existe jamais dans la nature. 4 cellules, et ben il y en a 3 qui disparaissent au profit d'une qui va se développer. C'est-à-dire vouloir croître, vouloir avoir une croissance exponentielle au niveau industriel, évidemment, ça n'a aucun sens. Et alors il développe, à la fin de son ouvrage, il dit qu'il y aurait besoin à tout prix de retrouver un équilibre entre ce qui est vraiment la production véritable à partir du vivant, qui est l'agriculture sous toutes ses formes, agriculture, jardin, où on part des éléments, on part de la terre, de l'eau, de l'air, de la lumière, de la chaleur pour produire la matière vivante. Ça, c'est la vraie production. Tout le reste, en fait, l'industrie n'est que transformation. On transforme des substances qu'on épuise. Et il dit qu'il faudrait à tout prix avoir un équilibre entre ces deux domaines et pas une domination extrême de tout le domaine industriel de transformation des matières. Donc c'est une clé aussi très très pertinente qu'on peut appliquer à l'échelle de sa ferme, qu'on peut appliquer à l'échelle d'un village, qu'on peut appliquer à l'échelle d'une région, de se dire mais est-ce qu'on a un équilibre entre ces deux pôles. Et il donne aussi l'exemple des villes, et il dit dans les villes, ce qui se passe un petit peu maintenant, ça commence à émerger. Il faudrait absolument des jardins, il faudrait des espaces verts, il faudrait des espaces de production agricole ou au moins jardinière partout dans les villes. Donc j'étais très étonné en relisant ça, à quel point il est vraiment très, très précurseur, et les grandes idées sont tout à fait valables, on peut tout à fait les conserver pour avoir quelque chose de très durable. Donc trouver cet équilibre justement entre véritable production de matière vivante et entre utilisation des ressources. Quoi. Voilà, merci bien.
Merci.
Bonjour, moi j'aurais une question concernant au niveau de la production laitière. Par exemple, si on prenait l'exemple d'une exploitation laitière aujourd'hui qui a entre 1000 et 1100 mètres d'altitude en agriculture conventionnelle, et puis l'agriculteur, enfin je ne veux pas dire exploitation, vous aimez pas un domaine laitier, ce qui est plus logique, oui, et puis l'agriculteur, il déciderait de passer en agriculture biodynamique. Vous avez dit tout à l'heure que pour dans le cas d'une production laitière, il faut être autonome, c'est-à-dire rien acheter. Mais quelles sont les solutions? Je prends l'exemple, le domaine agricole est à 1000 mètres d'altitude, l'agriculteur il a une quarantaine de vaches laitières qui ont une production à 6500 kilos, ce qui est tout à fait raisonnable en conventionnel, et puis demain il dit je décide de passer en biodynamie, mais comment il va arriver à quand même à ce que ces vaches qui perdent pas trop en production laitière sans acheter. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut presque quasiment pas donner de céréales, et on sait que si on donne que de l'herbe à des vaches laitières, on va avoir une production vraiment 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 minime. Alors quelles sont les solutions, les alternatives que vous proposez par rapport à cela?
Alors j'ai pas de solution, je peux vous donner des exemples de ce qui s'est fait quoi. Effectivement, si on nourrit des animaux qu'avec de l'herbe, selon la race, hein, si on a des Montbéliards, on peut quand même avoir au moins 4000 ou quelque chose comme ça, mais pas 6500, je pense. Mais si je prends un exemple dans les Vosges, moi je connais une ferme vosgienne, effectivement, ils ont choisi la race vosgienne, ils font du Munster, ils ont une production laitière qui est plutôt autour de 3000 kilos de lait. Alors eux transforment par exemple, et eux s'en sortent tout à fait bien parce qu'ils transforment en un produit de terroir de haute qualité qui est tout à fait apprécié. Une autre solution, évidemment, c'est de toute façon, si on passe à majorité d'herbes et en diminuant largement la portion de céréales et de légumineuses, on va baisser, effectivement, on va avoir une légère baisse de la production laitière, qui peut être 20% ou plus. On va augmenter la qualité du lait. Donc, toute la question, c'est comment valoriser ce lait de qualité supérieure, soit collectivement, mais il faut à tout prix le transformer et le valoriser au moins sous mention bio ou biodynamique si c'est en biodynamie. De l'autre côté, évidemment, si je pense à cet éleveur, lui, il est perché en montagne, donc il a dû se mettre d'accord. Il a dû louer des prairies en fond de vallée, mais ça reste dans sa vallée, si vous voulez. Il n'achète pas son foin à l'autre bout de la France, sauf en cas de sécheresse extrême. Donc, effectivement, cette idée d'organisme agricole, il faut l'étendre un petit peu à la vallée, ou il faut l'étendre avec un collègue. Il y a un collègue viticulteur qui lui prend son fumier. En échange, ce viticulteur a des prairies, il fait le foin chez le viticulteur. Donc, il faut raisonner par partenariat, mais en proximité. Et proximité, ça veut dire 15 kilomètres, ou ça veut dire, mais ça reste dans tout à fait le même environnement. Parce que entre l'idéal que je vous ai décrit et la réalité, il faut arriver à ça. C'est quand même intéressant qu'avec la crise laitière actuelle en ce moment, je ne sais pas si vous avez entendu, les seuls qui râlaient pas et qui se plaignaient pas, c'était les bio. Hein. Tous les autres hurlaient, et le pire des cas, beaucoup se suicident, etc. Ben, bien sûr, parce qu'on pense qu'on produit du lait, puis après, on n'a plus de quotas, on est content, on n'a plus de quotas, on peut produire comme des malades, on espère que les Russes vont nous acheter, mais le marché russe est fermé, vous savez pourquoi. On pensait qu'on allait enfourguer aux Chinois, mais Chinois, entre-temps, ils sont équipés pour produire leur propre lait, donc ils veulent pas du lait français, donc tout le monde crie au secours, la chute du prix, mais la chute du prix du lait, elle a été produite par les gros éleveurs qui ont poussé à la suppression des quotas. Hein. Donc je vois pas trop d'avenir dans cette option malheureusement, et je vois plus, et même à la radio, hein, moi j'ai entendu des bio qui prenaient la parole, je sais plus quoi, à l'émission de France Inter, en disant mais moi je me plains pas, hein. Moi je produis pas énorme, mais j'ai pas de chute de prix, hein. Moi je fais mon lait, je le transforme, et ça joue pas sur moi, hein. Donc je dis tout n'est pas simple, hein, mais pardon.
Je vous disais qu'en production laitière, tout le monde ne peut pas transformer en plus. Tout le monde ne peut pas faire la transformation fromagère chez lui parce que c'est aussi un autre métier.
Non, oui, là on est d'accord. Oui. Mais on peut se mettre à plusieurs pour transformer.
Bien évidemment.
Il y a le réseau Biolay, il y a des choses qui travaillent là-dessus. Hein. Le réseau Biolay fait un travail remarquable en collectant le lait des petites et des grandes fermes au même prix. C'est pas ce que font les grandes laiteries, quoi, en conventionnel. Hein. Elles cassent les prix. Donc, je veux dire, les bio sont organisés. Il y a quand même des choses intéressantes qui existent. Hein.
Puis j'ai une autre question concernant la gestion des, entre guillemets, des mauvaises herbes. Par exemple, le rumex qui est assez fréquent. Comment on fait pour lutter contre le rumex quand on est dans un système d'agrobiodynamie?
Ben en fait, le rumex ou toutes les mauvaises herbes, on revient à l'idée du visage de la terre, en fait. Rumex, c'est comme un gros bouton, quoi. Hein. Effectivement, si vous avez un rumex, c'est bien, hein, gardez-le. Quelques rumex, gardez-les, parce que ça permet à un papillon très rare de venir. Sa chenille va venir, le cuivre est démarré. Donc, ne supprimez pas tous les rumex. Même les rumex, il faut en garder un peu. Si vous voulez avoir de la diversité, j'ai un copain éleveur qui fait ça, en tout cas. Il n'a pas plus de problèmes. Dans le rumex, c'est typiquement... la recette pour avoir du rumex, c'est vous laisser des chevaux en hiver dans un terrain humide, quoi. Bon, voilà. Ça veut dire que vous avez compacté le sol complètement. Il y a une hydromorphie, il n'y a plus d'air dans le sol. Donc, c'est le rumex, il vient avec des grosses racines pivots pour décompacter. Donc, en fait, il vous dit ce qu'il faut faire. Et il vous dit la bêtise que vous avez faite. Après, comment on résout le problème? C'est pas facile, effectivement. Mais il faut revitaliser le sol. D'abord, il faut éviter de faire ce que je viens de dire. Hein. Après, si vous avez des tâches de rumex importantes, en agriculture biodynamique, on a non seulement le fait de raisonner, d'essayer de régler le problème en décompactant, en activant la vie du sol, etc. Dans certains cas, on a une méthode aussi un peu de type isothérapie qui consiste à prendre la plante qui pose problème, à l'incinérer et à répandre, à faire une dilution des cendres de la plante, qui peut aider en fait à modifier l'ambiance et à limiter le développement de la plante. Donc c'est un type de procédé, on peut dire comme une isothérapie. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez les isothérapies. On prend la substance dans notre corps qui est la cause de la maladie. On en fait une dilution homéopathique très élevée. Hein. Ça s'utilise en médecine aussi. Donc on utilise ce genre de choses en biodynamie en dernier recours si on s'en sort pas avec les pratiques de base. Mais effectivement, chaque plante, chaque mauvaise herbe invasive est une sorte de bouton, une acné ou un truc sur le visage de la terre. Et il faut le prendre comme tel et d'abord se demander ce que j'ai fait. Vous pouvez toujours utiliser toutes sortes de trucs pour régler le problème, mais en fait, les plantes, les mauvaises herbes sont géniales parce qu'elles vous disent les erreurs que vous avez faites. Si vous ne les voyez pas, ben l'erreur, vous continueriez à faire la même erreur, à compacter. Non, quand le rumex arrive, il faut se dire, oula, il y a urgence à s'affoler, quoi. Après, les solutions, c'est au cas par cas. Il y a des parcelles qui sont très fragiles au rumex. Je sais, il y a des terres qui ont cette tendance, hein. Mais une activation de la vie du sol par un bon apport de compost, par un travail du sol, peut aider bien. Hein. C'est pas une méthode miracle, hein, c'est pas ça que je dis. Hein. Mais c'est une méthode qui a pas mal d'outils pour travailler avec l'organisme global.
Bonjour. En ce moment, il y a des mouvements qui se battent pour une abolition.
Vous devez faire comme moi.
Ah, pardon. Là, c'est bon. Il existe des mouvements qui revendiquent l'abolition de toute forme d'élevage. Et est-ce qu'une agriculture biodynamique est envisageable sans élevage?
Alors, est-ce qu'on peut faire de l'agriculture biodynamique végane? A priori, non. Moi, je trouve le mouvement végane ou le mouvement d'abolition de l'élevage intéressant parce que, en fait, c'est pour moi un symptôme d'un éveil d'une partie de la population aux souffrances infligées aux animaux. Et de ce point de vue-là, je trouve ça génial. On n'attendait que ça, quoi. Hein. Parce que dans les abattoirs, parce qu'une majeure partie de l'élevage n'est plus de l'élevage. Hein. Vous comprenez, élevage, ça veut dire élevé, normalement. Hein. Et en fait, c'est l'abaissement, quoi. Hein. 95%, bon, allez, je suis peut-être violent avec mes chiffres, mais tout ce qui est élevage en batterie n'est pas de l'élevage, quoi. Hein. C'est clair, c'est des camps de concentration pour animaux. Donc, de ce point de vue-là, je trouve ce mouvement positif comme symptôme de prise de conscience. Après, en biodynamie, clairement, on essaye autant que faire se peut de raisonner l'élevage en termes d'élevage, en se disant les animaux, on a quelque chose à faire avec eux. Comment se fait-il qu'il y a 10 000 ans ou il y a 7 000 ans, des animaux se soient laissés apprivoiser? On sait très bien qu'il y a eu beaucoup d'essais d'apprivoisement d'autres animaux. Beaucoup n'ont pas. Ça n'a pas marché quand on a essayé avec les cerfs, avec je ne sais pas quels animaux. Les zèbres, vous pouvez toujours essayer de domestiquer des zèbres, hein, ils vouruent dans les brancards. Donc, il y a des animaux qui sont approchés de l'homme. Et du coup, il y a eu un compagnonnage de 5, 6, 10 000 ans. Et toutes les races animales, la diversité des races animales qui existent aujourd'hui, mais c'est 1000 fois la diversité qui existait à l'origine. Je veux dire, l'être humain, dans tout son travail d'élevage, est parti de la vache, est parti du cochon ou du sanglier, et a poursuivi l'évolution. Donc, juste pour vous donner une autre manière de concevoir, donc c'est un accompagnement de l'évolution des animaux. Et nous, en biodynamie, on prend ça au sérieux. On dit on ne peut pas larguer tout ce patrimoine, en fait. Ça fait partie de la biodiversité animale, domestique, mais on est responsable de ces animaux. Et si je mets une vache d'élevage en pleine cambrousse et je la largue, toutes ces races vont disparaître, ces animaux vont disparaître. De toute façon, ils vont pas survivre. Et il y aura pas de rocs qui vont réapparaître. Donc, si je n'élève plus de vaches, il y aura plus de vaches. C'est clair, parce que son ancêtre a disparu de toute façon. Donc, est-ce que c'est la solution? Vous voyez ce que je veux dire? On peut considérer les choses d'un point de vue tout autre. Et nous, enfin moi maintenant personnellement, je prendrais un peu au sérieux le message de Saint-Exupéry dans son ouvrage célèbre Le Petit Prince. Hein. Il y a quand même un truc qui m'étonne toujours. Le renard, une bête sauvage, vient voir le Petit Prince et lui dit « S'il te plaît, apprivoise-moi ». Est-ce que en ce moment, ou est-ce que déjà dans le passé, un certain nombre d'animaux n'ont pas souhaité s'approcher de l'homme et d'autres non? On voit bien. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un compagnonnage choisi de part et d'autre? Le problème, c'est qu'on n'a pas respecté du tout ce contrat de compagnonnage. C'est-à-dire qu'on a maltraité les animaux. Et ils sont tellement généreux qu'ils ne disent rien, même si on les maltraite, quoi. Et le problème, il est chez nous. Il n'est pas chez eux. Mais moi, je pense que pour beaucoup d'animaux, il y a des expériences de liens intimes, il y a des expériences de communication animale, il y a des expériences très, très étonnantes. Hein. On travaille là-dessus avec un groupe de travail du monde de l'agriculture biodynamique, bio, y compris sur la mort de l'animal. On a eu des groupes de travail là-dessus, hein, avec les éleveurs, avec des abatteurs, avec des gens qui veulent des petits abattoirs à la ferme, etc. Avec quelqu'un qui s'inspire des rituels traditionnels indiens, par exemple. Hein. Un gars qui nous dit, mais moi, j'ai un troupeau de bisons, mes bisons, il se trouve que j'ai été initié aux traditions amérindiennes, hein, de comment on élève les bisons et comment on les tue. Mais dis-moi, j'ai pas un problème à tuer un bison. Parce que je sais que je prépare une semaine à l'avance, en connexion avec mon bison, et il se laisse tuer. Il le tue à la lame, au couteau. Inimaginable, hein, un bison d'Amérique, hein, un truc de plus d'une tonne. Hein. C'est vécu, quoi, c'est vrai l'histoire, hein, c'est pas, je vous raconte pas ça. Donc il dit, oui, pour moi, l'unité, en fait, c'est le troupeau. Et ce qui importe, c'est que le troupeau survive, et qu'il y ait toujours plus de vie. Et dit, quand je pense que je sacrifie un bison, je sais qu'en même temps, je vais permettre 2-3 jeunes bisons, des jeunes de naître et de se développer. J'ai ça en tête. Moi, c'est l'unité avec laquelle je travaille, c'est le troupeau. Et dit, du coup, ce bison qui est prélevé, hein, pour utiliser tout, comme faisaient les Indiens, hein, la viande, lui, il fait de la préparation biodynamique avec de la corne de bison et de la bouse de bison. Hein. Il dit, moi, j'utilise tout. Et j'en ai besoin pour fertiliser ma terre. Et en fait, cet animal, effectivement, c'est un sacrifice de l'animal. Mais vu du troupeau, ça se passe de toute façon dans la nature aussi comme ça. Un vieux bison, bah, c'est un loup qui lui sautera dessus. Je sais pas. Enfin, bon, un loup, je ne sais pas sur les bisons. Bon, vous irez voir de près comment ça se passe. Mais ça se passe aussi comme ça dans la nature. Donc, on prend une place dans la nature, on l'assume. Le problème, c'est de l'assumer correctement, sans souffrance, en se préparant, en préparant les animaux. Donc, on travaille là-dessus en ce moment. On a vraiment un groupe de travail. Là, on a un séminaire de 2 jours sur ce thème. Parce que c'est clair que ça nous touche tous. Et parce que pour beaucoup d'éleveurs, c'est très, très difficile de pas savoir ce qui se passe à l'abattoir. Beaucoup d'éleveurs aiment vraiment leurs animaux. Il ne faut pas du tout croire l'inverse. Y en a, ils ont la larme à l'œil. Et chaque fois que vous leur parlez de ça, c'est très émotionnel. Donc, c'est peut-être difficile à comprendre. Effectivement, de l'extérieur, c'est difficile à comprendre. Mais si on est dans un élevage, on peut comprendre ça. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a complètement perdu le lien avec les animaux et qu'on est schizophrène. Il y a le petit chien qu'on sursoigne et puis qui fait une dépression nerveuse, enfin, qui chope toutes les maladies qu'on a, nous, parce qu'on lui raconte tous nos malheurs, ce qu'il ne peut pas supporter. Et puis les animaux d'élevage qui sont de la viande, quoi, qu'on considère comme un bout de viande. Quoi. Donc là, il y a tout un contrat à reconstruire, hein, un contrat naturel. Je ne sais plus si c'est Michel Serres qui disait ça. Ouais. En tout cas, on travaille à fond là-dessus, mais effectivement, on travaille avec des animaux. Mais pas forcément pour faire de la viande, plutôt pour faire du lait, plutôt pour l'attraction, plutôt pour d'autres choses, et aussi pour la viande. Mais pas en priorité que pour la viande. Ouais. Bien sûr, oui, monsieur me dit, et il a tout à fait raison. On dit les vaches, c'est une catastrophe, ça pète, ça rôde, ça fait du méthane, etc. Ça, c'est vite dit, c'est pas faux. Mais si on a des vaches bien soignées qui se nourrissent d'herbe, en fait, leur fumier, leur bouse, fixe plus de carbone, CO2, sous forme d'humus dans le sol, que ce qu'elle pète et ce qu'elle rôde. Excusez-moi la vulgarité, mais c'est ce qu'on dit maintenant. Je commence à en avoir marre d'entendre ça partout, quoi. Elles en fixent plus. Si elles mangent de l'herbe, si vous compostez bien leur fumier, si vous l'utilisez correctement, d'accord. Et ensuite, effectivement, sur Terre, 50% des surfaces agricoles, c'est de l'herbe, des pâtures et des zones sur lesquelles, de toute façon, on ne peut pas produire des aliments parce qu'elles sont trop arides, trop maigres, etc. Et effectivement, c'est un entretien du paysage, ça fait partie de l'entretien du visage de la Terre. Ouais, ouais. Il faut le remettre dans le contexte général, là. Sinon on dit des grosses bêtises parce qu'on n'a qu'un point de vue partiel. Et ce n'est pas des bêtises du point de vue partiel, mais c'est des bêtises dans le contexte global, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, j'en ai une, moi. Et quelle est un peu la photographie de la biodynamie en France à l'heure actuelle? Parce qu'on en parle beaucoup en viticulture, justement, assez peu dans les autres productions. Et puis, un peu une photographie de la biodynamie dans le monde. Est-ce qu'il y a des pays qui ont plus développé?
Oui, ça, je voulais vous montrer avec les images, mais comme j'ai pas réservé le vidéo, je peux pas vous montrer d'images. En France, il y a environ 550 domaines certifiés avec la marque Demeter, donc qui suivent un cahier des charges très précis de la biodynamie. On peut estimer qu'il y a au moins autant qui font la biodynamie sans être certifiés Demeter. Là-dedans, il y a les deux tiers qui sont des viticulteurs, effectivement, c'est très très viticole. Là, il y avait un congrès à 7, il y avait 200 viticulteurs. Donc ça continue. La polyculture élevage est présente, mais effectivement pas en nombre très important. L'élevage est présent, le maraîchage. Jusqu'à présent, c'était plutôt des fermes de taille moyenne, petite à moyenne. Maintenant, depuis 2-3 ans, on voit arriver des personnes qui nous posent des questions avec des gros domaines, 200 hectares d'arbres fruitiers, 2000 hectares de céréales, qui sont des gros défis aussi, parce que 2000 hectares de céréales, quand on le voit arriver, on dit bah il va te falloir des vaches, mon coco. Non, mais il est d'accord, hein, il est partant, je veux dire. Mais c'est des gros défis, quoi. Hein, vous voyez, entre l'idéal et la réalité, il y a des gros défis à développer. Mais je trouve que ces derniers temps, on voit arriver vraiment toutes sortes de profils de fermes, de la micro ferme à la méga ferme. Et en fait, on est fermé à personne, on n'est pas raciste, hein, et ça veut dire. Si quelqu'un a de bonne volonté et qu'il arrête de balancer des trucs sur sa terre, quoi qu'il fasse, moi je lui dis bravo et on y va, quoi. Hein. Au niveau mondial, en fait, la biodynamie s'est développée quand même surtout en Europe, hein, Europe centrale. Maintenant, ça touche beaucoup les pays de la Méditerranée. Il y a à notre échelle, évidemment, hein, c'est l'homéopathie, mais comme on croit à l'homéopathie, il n'y a pas de problème. En Espagne, il y a un assez bon développement ces derniers temps. En Italie, il y a un fort développement aussi. Et ensuite, il y a un certain nombre de pays comme l'Inde, la Chine, des pays d'Amérique du Sud qui s'intéressent. Et là, je reviens à l'Afrique du Sud aussi, il y a un intérêt, mais plutôt aussi dans le Maghreb un petit peu. Mais ce qui est intéressant, ce que j'ai vu surtout en Asie et en Amérique du Sud, c'est la facilité de compréhension pour les personnes qui ont encore un lien aux connaissances traditionnelles. Pour eux, hop! C'est comme voilà, vous allez en Amérique du Sud, vous parlez de biodynamie, vous leur expliquez mon histoire de bouse, ils disent alors on dit il vaudrait mieux prendre la bouse d'une vache et pas d'un taureau. Bon, le français, l'européen, il va dire ouais, pourquoi ? Là-bas, vous leur dites ça, ils disent mais oui, c'est normal parce que la terre c'est féminin, la pachamama c'est féminin, donc il faut prendre une vache parce qu'une vache c'est la fécondité. Dans leur manière de penser, c'est complètement cohérent. Et en Inde, la même chose. Ils vont m'expliquer des trucs mieux que moi, quoi. Hein. Comprenez ? Donc c'est proche des cultures traditionnelles, et ce qui est intéressant, c'est que ça redonne une espèce à des peuples qui ont été colonisés, qui ont été écrasés, qui ont été, je vous dis pas quoi, hein, les Amérindiens, les Indiens, donc d'Amérique du Nord, j'en ai parlé un peu, d'Amérique du Sud, qu'on a considéré comme des sous-hommes, ça leur redonne vraiment confiance d'accéder à leurs connaissances traditionnelles et de se dire avec ça on peut aller vers l'avenir, c'est pas que des vieux trucs. En faisant la synthèse avec la biodynamie, on a des choses pour aller vers l'avenir. Moi, j'ai eu des rencontres vraiment très très intéressantes, quoi, hein. Des jeunes qui à la fois étaient très formés à l'université mais qui connaissaient beaucoup les choses traditionnelles et qui disaient ouais, la biodynamie là, votre truc spirituel là, c'est quoi, pourquoi vous appelez ça spirituel, et c'est quoi l'organisme terre, vous croyez vraiment que la terre est un être vivant ou c'est juste, enfin vous voyez, toutes ces questions ça les préoccupe. Parce qu'ils cherchent à faire une synthèse ou à comprendre. Et le monde occidental leur amène un point de vue tellement matérialiste qu'en fait, ils sont comme écartelés, quoi. Voilà, bon, c'était rapide, hein, comme aperçu.
Moi, je vais me permettre une dernière question. Quelle place vous donnez à la permaculture et à l'agro-homéopathie ?
Ben, en fait, la permaculture, je pense que c'est un... C'est un truc très bien et on a des groupes de travail d'échange, hein, permaculture, biodynamie. On a vu qu'on a chacun à apprendre les uns des autres. Hein, on n'est pas dans une situation de dire on est les plus beaux, les meilleurs. Hein. Mais ce qui est étonnant, c'est que si je prends le livre Le visage de la terre de Pfeiffer, c'est en fait très proche de la permaculture et la biodynamie, où nous, les biodynamistes, on a un petit peu oublié cet aspect-là du design du paysage. Et c'est pour ça que je me dis que finalement, si les permaculteurs nous donnent un petit coup de pied derrière en nous disant tiens, il faut quand même se rappeler ça, je pense qu'il y a des échanges très féconds à faire. Donc, c'est pas qu'on va faire de la permaculture, mais que cet aspect en tout cas de la permaculture qui est tout le design de paysage. Moi je travaille avec beaucoup de viticulteurs pour faire ça, hein. Je veux dire, on fait des cartes de paysage, on regarde les micros endroits, etc. Y compris à grande échelle, hein. Pour moi il faut que ça soit à toutes les échelles possibles, parce que si j'ai quelqu'un de 2000 hectares, je peux pas lui dire écoute mon gars, faut que tu fasses 2000 parcelles de 1 hectare, pas tout de suite, ça viendra peut-être, quoi. Et l'homéopathie, je connais un peu, on s'inspire beaucoup la biodynamie a des pratiques depuis le début qui sont proches de l'homéopathie. On utilise un certain nombre de remèdes homéopathiques et on en utilise surtout dans des situations un peu extrêmes avec des plantes très difficiles comme pour la vigne où on a beaucoup de soucis. Donc voilà, mais j'ai l'impression, à ce que je connais, que l'agro-homéopathie c'est quelque chose qui débute, hein. Moi, ce que j'ai un bouquin et tout, mais j'ai pas vu grand chose dans pratique. Mais on intègre des remèdes homéopathiques sans problème.
Parce que tout à l'heure vous avez parlé des problèmes des palmiers dattiers dans le monde entier, qui n'était pas soigné par l'agrochimie depuis 1921, puisque le fusarium du palmier dattier date de les premières découvertes 1921, je crois, ou 31. Pour info, nous, ça fait maintenant 6 ou 7 ans au Maroc où on soigne en agro-homéopathie les palmiers dattiers qui étaient atteints du bayou, ce qui veut dire la blancheur en arabe. Et on a des très très bons résultats. Donc je pense qu'effectivement en Occident, on a quasiment jamais entendu parler d'agro-homéopathie, alors qu'en Inde, dont vous parliez, ça fait 30 ans qu'ils soignent toute leur culture avec l'agro-homéopathie. Et je vous parle de ça parce qu'hier on m'a fait l'opposition. J'ai fait une conférence sur l'agro-homéopathie et beaucoup de gens dans la salle me disaient mais l'agro-homéopathie c'est moins bien que la biodynamie. Et je pense que c'est complètement complémentaire. Moi, je dis que la biodynamie est essentielle en agronomie avant de soigner en agro-homéopathie, comme la diététique paléo est essentielle avant de soigner des humains en homéopathie. On ne peut pas soigner un corps malade et on ne peut pas soigner les plantes si elles sont sur un sol malade. Donc, je pense que c'est complémentaire.
Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, ça me permet de rappeler qu'effectivement, la biodynamie, c'est pas, on pourrait l'appeler médecine de la terre, mais c'est pas l'intention. L'intention, c'est plutôt de faire de la salutogénèse, hein. L'intention primaire de la biodynamie, c'est de créer les conditions les plus saines et de soutenir les forces de santé et pas de remédier aux maladies. Et effectivement, comme vous dites, quand on a des maladies extrêmes, des problèmes extrêmes, je vous dis, il y a des essais aussi inspirés de l'agro-homéopathie, je pense, hein. En viticulture, par exemple, il y a des gens qui utilisent effectivement de l'homéopathie pour certains problèmes pointus. C'est vrai que la biodynamie, tout à fait, c'est plutôt comment stimuler au maximum les forces de santé pour éviter que les plantes et les animaux tombent malades. Et une fois qu'ils sont malades, on emploie des procédés qui sont de toute façon proches de l'homéopathie et on pourra certainement collaborer plus. Oui, complètement. Enfin, moi, j'ai pas du tout une approche exclusive de la biodynamie. J'ai une approche de partage et on est obligé, étant donné l'urgence et les problèmes, de faire des alliances, c'est-à-dire de se dire chacun a son point de départ, mais il faut s'inspirer de ce que font les autres et s'en enrichir complètement, quoi. Hein. Ça, c'est clair, quoi. Les oppositions, je trouve que c'est un peu de la guéguerre intellectuelle. Sur le terrain, le gars qui a une urgence, eh ben, il est content s'il y a une granule homéopathique qui sauve ses plantes. Il va pas se poser la question si c'est de l'agro-homéopathie ou de la biodynamie. Il va soigner sa plante, hein. Je veux dire, ou ses animaux, quoi. Donc,
Je voulais savoir si vous pouviez refaire un point sur les différences et les points communs entre la permaculture et la biodynamie.
Je suis pas spécialiste de la permaculture. Je suis en échange avec des gens de l'université permanente de permaculture, là, mais je suis pas spécialiste de la permaculture. Ce que je peux vous dire, en biodynamie, je vous ai décrit un certain nombre d'éléments. Je sais pas si la permaculture donne une place importante à l'animal, par exemple. Ça, c'est une question. Je ne sais pas. En tout cas, pour nous, elle est importante. Pour nous, en biodynamie, c'est pas forcément non travail du sol. C'est travail du sol réduit, évidemment, pas labour profond, c'est clair, pas labour retourné, mais on n'a pas de dogme là-dessus. En tout cas, on est ouvert parce qu'il y a tellement de situations dans le monde entier qu'on est ouvert. Il peut y avoir paillage, il peut y avoir compostage de surface, il peut y avoir. Donc là, nous, on a une approche assez diverse. Ce qu'on a de particulier en biodynamie, ce qui est pas dans la permaculture, à mon avis, c'est ces fameuses préparations biodynamiques qui, pour nous, sont un peu une base, hein, c'est obligatoire au cahier des charges, parce qu'on considère qu'avec ça, on va vraiment fortifier la terre, donc avec le compost et les 6 préparations de plantes médicinales, hein, Acquis des millefeuilles, camomille, ortie, pissenlit, valériane, écorce de chêne. Et puis les deux préparations dont je vous ai parlé. Ça peut paraître dogmatique, mais quand on en voit les faits, c'est pas dogmatique du tout. Je veux dire, c'est comme des gens disaient, pourquoi tu prendrais pas autre chose? Ben, je dis, ouais, essaye toujours autre chose. Mais je veux dire, si je me fais une grosse bosse à la tête, eh ben, je prends de l'arnica. Je commence pas à enquêter, faire le tour du monde pour trouver la bonne plante. Hein, désolé. Et c'est un peu ça, la biodynamie, c'est qu'on a un kit d'urgence quand on a des sols dégradés et tout. Et ça, je le vois pas chez la permaculture, mais elle a peut-être d'autres moyens de travailler sur la fertilité du sol, hein, sûrement. Je les connais pas assez, donc je veux pas... Mais nous, ça, c'est nos particularités certainement fortes. Et après, il y a un aspect qu'on appelle des fois spirituel en biodynamie. J'ai essayé de vous l'expliquer à travers la bouse de corne ou à travers ces échanges entre plantes et animaux. Moi, je dirais, c'est pas spirituel au sens religieux. On a un problème avec ce mot en France. C'est spirituel au sens où on s'intéresse non seulement à l'aspect matériel des choses, physique, analytique, mais aussi à l'aspect dynamique, énergétique des forces. C'est-à-dire, on considère que le fumier de vache n'a pas du tout les mêmes propriétés que le fumier de cochon, parce que l'animal est différent, parce que du point de vue de sa nature profonde, de son essence, il est différent. Donc c'est ça l'approche spirituelle, c'est chercher l'esprit des choses. Pas croire au bon Dieu dans le ciel là-haut, mais se dire chaque chose a un esprit, a une essence, une entité différente, et on travaille entre les... On tient compte de ces entités, de l'essence profonde de chaque être vivant, quoi. Et donc du coup, un animal, c'est pas un homme, c'est pas un être humain, et puis c'est pas non plus une plante, etc. Et pour nous, ça, c'est très important de saisir chaque... Une vache, c'est pas un cochon, etc. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde, quoi. Mais permaculture, je connais pas assez, donc je sais que c'est très, très... Il y a un super engouement en ce moment. Si vous parlez pas de permaculture aujourd'hui, vous êtes juste has-been. Mais moi, je pense qu'il y a plein de choses à faire ensemble. Voilà, et on le fait, hein. On le fait au niveau national et international, avec des gens qui en font vraiment, quoi. Hein, parce qu'il y a aussi beaucoup qui en font, puis ils poussent rien, excusez-moi. C'est comme au début en biodynamie. Enfin, quand il y a un engouement pour un nouveau truc, tout le monde en parle, et puis à la fin, reste ceux qui font vraiment et où ça pousse vraiment, quoi. Je veux dire, voilà, faites-vous votre propre avis aussi, chaque fois. Y compris pour la biodynamie, hein, il y a aussi qui en parlent beaucoup, qui en font pas beaucoup. Hein.